France Culture.
Les midis, deuxième partie, c'est par ici. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, je recevrai l'écrivain Jean Rollin. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbière. Rebonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Si le casting sauvage se pratique partout dans le monde, le cinéma français a une façon bien à lui de le considérer. Honni par certains, plébiscité par d'autres, cette idée d'aller chercher dans la vraie vie le prochain personnage de son film n'a pas que des conséquences esthétiques. Où en est-on du casting sauvage? C'est le sujet du point culture du jour. Pierre Charpillos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et critique de cinéma. Vous venez de signer une enquête dans le magazine SoFilm sur le casting sauvage. Alors, diriez-vous que c'est toujours une pratique courante dans le cinéma français aujourd'hui?
Ça dépend vraiment des films. C'est une pratique qui est relativement courante pour le cinéma d'auteur, on va dire. Et quand on est sur des films qui ont une dimension naturaliste, c'est une pratique qui a été développée par Dominique Besnéard et qui depuis s'est beaucoup développée et assez présente sur des films qui ont une dimension un peu réaliste ou naturaliste.
Mais alors justement, est-ce que c'est toujours pour des questions d'esthétique, j'entends ça au sens très large, que l'on choisit ce mode-là de casting?
Ça parle d'une idée qui est que certains rôles, certains personnages, certaines sociologies ne peuvent pas être joués par des comédiens, qu'il n'y a pas de comédiens qui ressemblent à telle typologie et que du coup on a besoin de les trouver dans la vérité, dans des profils réalistes. En discutant avec des directeurs, directrices de casting, ils prenaient l'exemple par exemple d'un pêcheur sétois qui a les mains rongées par des années de travail en extérieur. La directrice du casting nous disait ces profils-là, on les trouve pas dans les agences habituelles, donc on est obligé d'aller sur le terrain pour les trouver. Ou alors ça va être des gens qui ont des techniques particulières, comme traire une vache par exemple, ce genre de choses qui n'est pas forcément couru chez les comédiens d'agence. Puis après, il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, que le métier de comédien, c'est justement d'incarner des personnages, de créer des personnages et d'apprendre du coup ces techniques, de se transformer et que en quelque part, entre guillemets, volant le travail de certains comédiens professionnels, les pratiques du casting sauvage seraient un peu à regretter.
Donc il y a toujours ces théories. D'accord, donc il y a toujours ces deux mondes-là qui s'opposent. Parce que c'est vrai que quand on imagine ce qu'est être un acteur, c'est justement de pouvoir incarner n'importe quel personnage et c'est son jeu d'acteur qui permet d'y arriver. Donc le fait d'aller chercher quelqu'un qui ressemble au rôle, il y a quand même un paradoxe, non ?
Il y a un paradoxe, donc ça c'est vraiment une question esthétique, philosophique, un point de vue que doit affirmer le metteur en scène, le réalisateur. Mais c'est vrai que concrètement, quand on a mené cette enquête, on s'est rendu compte que c'est assez simple, qu'il y a des films, disons, à budget important, qui se veulent un peu grand public, qui ne font jamais recours au casting sauvage, c'est toujours des comédiens issus d'agences. Et puis il y a des films qui ont véritablement une dimension plus autoriste et dans lesquels on a cette recherche du casting sauvage. Mais ce qui arrive aussi, là, on a prendre l'exemple de la fracture de Catherine Corsini qui se passe dans le milieu hospitalier. Il y a une actrice, Aissatou Diallo Sagna, qui a été recrutée par du casting sauvage, c'est une aide-soignante, et ils l'ont contactée, ils lui ont proposé de jouer un tout petit rôle, ça devait être un petit rôle parlant, un rôle assez secondaire, et quand elle a rencontré Catherine Corsini, quand elle a fait ses premiers essais, Catherine Corsini s'est dit, mais en fait c'est ce qu'il me faut, il me faut cette actrice, et elle a eu un rôle plus important, alors que normalement le casting des rôles principaux devait être exclusivement d'acteur professionnel. Elle a eu un César après et elle continue sa carrière aujourd'hui en parallèle de son activité d'aide-soignante.
Oui, c'est ça. Elle continue parce que certains de ces castés dans la rue sont restés acteurs. Vous citez notamment dans l'article Béatrice Dalle ou Romain Duris, par exemple. Mmh. Mais d'autres ont des trajectoires plus tragiques. Vous parlez de prison, voire de suicide. Est-ce que le monde du cinéma prend ses responsabilités pour accompagner ces acteurs qui sont soudainement célèbres et parfois aussi soudainement oubliés? Est-ce qu'on a de quoi les accompagner comme il faut?
Mais il y avait ce terme qui s'est développé un peu sous les castings dirigés par Dominique Besnéard dans les années 90. C'était ces acteurs Kleenex, des acteurs qui sont formidables dans un rôle et puis qui ont complètement disparu, qu'on oublie tout de suite après. C'est un peu le problème quand on cherche un personnage plutôt qu'un acteur, c'est-à-dire quand on cherche une certaine sociologie très particulière, il est idéal forcément pour ce rôle-là, mais ça ne veut pas dire qu'il va trouver des rôles par la suite. Et puis par ailleurs, il n'a pas la technique qu'un acteur de travailler sur un tournage, d'apprendre d'autres personnages, ce genre de rôle. Donc ça, c'est une technique qui souvent s'apprend par la suite. Alors il y a quand même un accompagnement, on l'a observé avec les différentes personnes auxquelles on a parlé. Souvent, du cinéaste lui-même. Je pense à Jean-Bernard Marlin, par exemple, qui a réalisé plusieurs films où il a fait appel à du casting sauvage, notamment Scheherazade, où les rôles principaux étaient uniquement des jeunes de cité de Marseille. Et il les a un peu accompagnés par la suite, il les a aidés à trouver un agent, etc. Et il les a plus ou moins aidés. Après, c'est à eux de aussi, parfois, ça se passe pas aussi simplement. Et puis, il y a aussi ce côté que c'est, voilà, typiquement, c'est des jeunes qui vivent dans des quartiers populaires et qui, du jour au lendemain, se retrouvent à Cannes dans des fêtes incroyables où tout le monde leur dit qu'ils sont géniaux, etc. Il y a comme un petit risque, quand même, de vriller par la suite. Donc, c'est vrai que c'est, voilà, il n'y a pas de suivi psychologique à proprement parler. Mais quand même, globalement, de ce qu'on a observé, il y a quand même la production autour et surtout le réalisateur et un peu les directrices, directeurs de casting essayent un peu de les accompagner.
Est-ce que ce sont des directeurs et directrices de casting particuliers, ceux qui pratiquent le casting sauvage, ou ce sont les mêmes que dans les autres distributions?
Ce sont les mêmes que dans les autres distributions. Par contre, il y a des directrices et directeurs de casting qui ne pratiquent pas le casting sauvage et qui sont même radicalement opposés à cette pratique. On en a rencontré quelques-uns qui nous disaient que c'était révoltant et que, voilà, ça volait le métier de différentes personnes. Donc, il y a une certaine directrice de casting, je pense à Julie Allion, par exemple, qu'on cite dans l'article, qui travaille avec Thierry de Peretti, qui, elle, a une petite spécialité dans le casting sauvage, mais ça ne veut pas dire qu'elle fait que du casting sauvage. Pour les films de Thierry de Peretti, les rôles principaux sont tenus par des acteurs professionnels, elle s'occupe du casting également, mais par ailleurs, elle recherche des acteurs sur le terrain, comme on dit, pour des rôles secondaires ou... Voilà, révélation.
Qu'est-ce qu'il recherche, selon vous, fondamentalement, le cinéaste quand il va chercher quelqu'un justement sur le terrain ou quelqu'un dans la rue à Marseille? C'est quoi? C'est l'innocence de la première fois? Qu'est-ce qu'il cherche à capter?
Très pareil, on a eu plusieurs interprétations sur les personnes qu'on interrogeait. Les cinéastes, eux, disent plus généralement qu'il s'agit d'avoir une vérité qu'ils n'arrivent pas à trouver avec des acteurs dans la manière dont eux font du cinéma. C'est une approche vraiment documentaire. L'idée, c'est de faire jouer presque leur propre rôle à des personnages. Donc, il y a une véracité qui apparaît directement. C'est aussi des profils particuliers qu'on trouve pas ailleurs. Après, il y a d'autres personnes qui nous diront qu'il y a aussi un peu une volonté de certains réalisateurs d'être le premier, le découvreur de talent, celui qui a mis en avant certains acteurs devenus très talentueux par la suite. C'est vrai qu'il y a des exemples comme Vincent Lacoste, par exemple, qui est un acteur issu du casting sauvage et qui, depuis, est vraiment un acteur de premier plan du cinéma français. Après, il faut aussi préciser qu'on a un peu cette image d'Épinal, et c'est l'image que nous, on avait quand on a commencé l'article de la directrice de casting qui arrête quelqu'un dans la rue en lui disant « Viens, tu veux faire du cinéma ?» En fait, ça se passe pas du tout comme ça. C'est des vrais castings, dans le sens où il y a des annonces de casting qui sont diffusées, par exemple, dans des écoles. Et donc, les personnes, les enfants ou les adultes qui souhaitent postuler, postulent de leur propre volonté et sont sélectionnés parmi d'autres personnes. La seule différence, c'est qu'au lieu que ces annonces de casting soient envoyées à des agences, comme c'est le cas pour les castings professionnels, c'est envoyé directement dans les endroits que peuvent fréquenter la typologie de personnages qu'on recherche, des écoles, des boulangeries, des salons de manucure, par exemple, pour un film qu'on cite dans l'article. Donc, ça peut être. Voilà. Et les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, ont une place très importante pour la recherche, TikTok, Instagram, d'acteurs qui sont issus d'une certaine réalité que recherche le cinéaste.
Bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Pierre Charpillaud. Merci.
Avec plaisir.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, deux œuvres de Dan Graham ont été démantelées.
Les villes de Nantes et de La Rochelle ont en effet décidé de retirer de l'espace public deux œuvres de l'artiste américain Dan Graham, célèbre pour ses installations conceptuelles en verre. Les deux municipalités qui ne se sont pas concertées dans ce choix invoquent néanmoins des raisons similaires. Les dégradations du temps engendrent des coûts de restauration élevés, tandis que des actes de vandalisme répétés en altèrent la conservation et le sens. La veuve de Dan Graham, l'artiste Miko Meguro, s'est dite très touchée par ce double démantèlement et a demandé qu'une solution soit trouvée pour permettre de rendre à nouveau visibles ses œuvres au public.
Et pour finir, Marie, on a appris hier la disparition de la chanteuse Roberta Flack à l'âge de 88 ans.
Vous avez sans doute reconnu l'air de ce classique de la soul que la chanteuse américaine interpréta en 1973 et qui lui valut 2 Grammy l'année suivante. Roberta Flack débuta sa carrière en 1969 avec son premier album First Take et connut un succès immense au cours des années 1970 avec des titres comme The First Time Ever I Saw Your Face ou encore Feel Like Making Love. À partir des années 1980, la chanteuse afro-américaine espaça sa production tout en continuant en parallèle une carrière de professeur de musique auprès notamment d'enfants défavorisés. Elle avait annoncé en 2020 mettre un terme définitif à sa carrière.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.